Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici les enjeux internationaux. Après s'être emballé suite à l'attaque israélienne ayant visé le consulat iranien en Syrie le 1er avril dernier, les marchés financiers semblent finalement plutôt optimistes sur la situation géopolitique au Proche-Orient. Les cours du baril, qui s'étaient d'abord élevés, a légèrement baissé depuis la manœuvre militaire de l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche, laissant entendre dans les sphères de la finance que l'on n'est pas plus inquiet que cela. Comment interpréter cette tendance? Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Alors, quelle menace fait concrètement peser l'escalade entre l'Iran et Israël sur le pétrole? Pour l'instant, aucun puits de pétrole n'a été touché, mais tout cela rappelle évidemment des souvenirs.
Nous sommes au Moyen-Orient, enfin pas dans votre studio, mais lorsque nous parlons d'Israël et de l'Iran. Le Moyen-Orient, c'est une région clé dans le système pétrolier et gazier d'ailleurs mondial. Presque 50% des réserves prouvées mondiales de pétrole et presque 40% des réserves prouvées mondiales de gaz sont au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est à l'origine d'une bonne part de la production et des exportations pétrolières mondiales vers l'ensemble du monde. Et cette région compte 5 géants pétroliers, par ordre décroissant, Arabie Saoudite, Iran, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït, plus quelques autres pays moins importants. Et 2 géants gaziers, l'Iran et le Qatar, plus quelques autres un peu moins importants. Cela fait donc beaucoup. Et donc, quand il y a des tensions très fortes, très graves au Moyen-Orient, en général, les marchés pétroliers sont nerveux. Comme vous l'avez souligné, depuis les attaques iraniennes contre Israël ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, donc les marchés étaient fermés à ce moment-là, mais à la réouverture des marchés, donc depuis lundi matin, les prix du pétrole sont calmes, le Brent à Londres a un peu baissé, il est juste un peu en dessous de $90 par baril, le West Texas Intermediate, côté aux États-Unis à New York, est aux alentours de $85 par baril, donc légère baisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire deux choses. Les marchés sont dans l'attente, ce n'est pas très original, puisque le monde entier est dans l'attente de ce que va décider le gouvernement israélien. Deuxième élément, les marchés pétroliers estiment que le pire n'est pas forcément sûr et que peut-être les négociations américano-israéliennes, les pressions de l'administration Biden sur le gouvernement israélien, sur le cabinet de guerre, pourraient peut-être conduire à ce que il n'y ait pas de riposte, mais cela paraît quand même un peu délicat à envisager maintenant, que peut-être cette riposte soit très calibrée, entre guillemets, pour reprendre un terme qui circule à Washington. Mais cela dit, si ces anticipations relativement optimistes se révèle fausse demain ou dans quelques jours, dans quelques semaines, les prix du pétrole augmenteront parce qu'il y a des enjeux considérables. Est-ce que dans ces frappes, s'il y a frappe israélienne, est-ce que les Israéliens frapperaient des installations pétrolières, par exemple? Quelles seraient les ripostes de l'Iran? Est-ce que l'Iran attaquerait des navires pétroliers dans le Golfe et le détroit d'Ormuz? Donc il y a plein de scénarios qui ne sont pas tous très optimistes, mais pour l'instant, il y a cette attente sur les marchés et cet espoir que les pressions américaines et les pressions internationales, même si les pressions américaines pèsent beaucoup plus du côté des dirigeants israéliens que celles qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, permettent peut-être de limiter les dégâts.
Mais oui, mais alors, justement, j'aimerais que vous nous fassiez une comparaison historique avec la guerre du Kippour en 1973 qui avait déclenché la crise pétrolière que l'on sait. Et qu'est-ce qui, justement, se rapproche de cette situation? Qu'est-ce qui s'en distingue? Pourquoi, finalement, les mêmes causes, autrement dit une guerre au Proche-Orient, pourraient ne pas provoquer les mêmes conséquences, Francis Perrin?
On peut faire plusieurs parallèles, plusieurs comparaisons, en ayant toujours en tête le bon adage français que comparaison n'est pas raison. Bien sûr, vous l'avez rappelé avec la guerre du Kippour qui a commencé en octobre 1973 et qui avait entraîné à l'époque des mesures de restriction des exportations pétrolières de la part de plusieurs pays pays pétroliers arabes vers certains pays occidentaux, dont les États-Unis, qui étaient des soutiens d'Israël. Cela est par ailleurs une très forte augmentation des prix. À l'époque, entre octobre 1973 et janvier 1974, le prix du pétrole avait été multiplié par 4, ce qui est évidemment considérable. C'est ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier. On peut penser 79 à la révolution islamique en Iran,
deuxième choc pétrolier,
la République islamique d'Iran, qui avait débouché sur le deuxième choc pétrolier avec un prix du pétrole multiplié en gros par 2,5. On peut penser à la guerre Iran-Irak 1980-1988 avec des attaques contre des navires pétroliers, des tankers dans le Golfe. Donc il y a différents parallèles que l'on peut faire, mais évidemment ce sont d'autres époques. Le passé est important, mais n'est pas forcément un guide pour le futur. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, encore en 2024, le Moyen-Orient reste une région capitale pour l'industrie pétrolière et gazière mondiale, pour les équilibres pétroliers et gaziers mondiaux, et que forcément, nous rappelons que nous avons quand même déjà 3 guerres dans cette région, Syrie, Yémen et Gaza, bien sûr, depuis octobre 2023, les marchés pétroliers, les marchés en général, les responsables politiques, les diplomates, n'ont pas envie, on les comprend, d'avoir une quatrième guerre dans cette région qui opposerait Israël à la République islamique d'Iran et qui serait évidemment encore plus dangereuse en termes de risque pour le monde que les 3 conflits existants réunis.
Mais alors, pourquoi ? Parce que dans ces conditions, il y aurait un effet mécanique parce que l'Iran, par exemple, ne pourrait plus livrer du pétrole. Mais comme l'Iran est soumise à embargo, qu'est-ce que ça changerait au niveau global, Francis Perrin ?
Alors, par rapport aux conflits existants, la Syrie est un petit producteur de pétrole. Le Yémen est un petit producteur de pétrole. Était un exportateur de gaz. Ça a été interrompu depuis 2015 du fait du conflit au Yémen. Gaza et Israël ne produisent pas de pétrole. Israël est un pays producteur et exportateur de gaz. Mais l'Iran, là, on passe à un autre sujet en termes d'hydrocarbures. L'Iran est un géant pétrolier et gazier, donc un enjeu considérable pour les marchés pétroliers et les marchés gaziers. Alors l'Iran, effectivement, vous l'avez rappelé, est sous sanction américaine depuis mai 2018, suite à des décisions prises par l'administration Trump. Mais ces sanctions ne sont pas forcément appliquées avec un zèle extraordinaire par l'administration Biden, qui est au pouvoir depuis janvier 2021. Ce qui signifie que malgré les sanctions qui sont toujours en vigueur, elles n'ont pas été abolies ou assouplies par l'administration Biden, mais leur application est nettement moins zélée, ce qui fait que l'Iran a pu significativement augmenter sa production et ses exportations de pétrole dans les derniers mois. C'est donc aujourd'hui un producteur et un exportateur de pétrole important sur le marché mondial, alors qu'il l'était beaucoup moins, en tout cas en termes d'exportation, sous l'administration Trump, donc jusqu'à janvier 2020. Donc il peut perdre des choses, d'une part. Par ailleurs, un scénario serait qu'Israël bombarde des installations pétrolières en Iran. On sait que ce scénario, l'administration Biden n'en veut pas. On a vu comment l'administration Biden a dit aux Ukrainiens « n'attaquez pas des raffineries russes en Russie parce que ce ne sont pas des objectifs militaires », ce qui est un peu curieux puisqu'avec des raffineries on fait des carburants et avec des carburants on fait la guerre. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que l'administration Biden n'a pas envie de voir une montée des prix du pétrole, donc une montée des prix des carburants aux États-Unis, alors que Joe Biden est en campagne électorale dans un contexte difficile, que l'échéance est novembre 2024 et que l'opinion américaine est évidemment très sensible aux augmentations des prix des carburants aux États-Unis. Donc évidemment, Joe Biden ne voudrait pas que Israël attaque des installations pétrolières en Iran, mais certains le souhaitent en Israël, certains le souhaitent aux États-Unis, notamment dans les milieux républicains. C'est un scénario possible, peut-être probable, mais pas sûr. Quelles seraient les ripostes de l'Iran sur en attaquant des tankers, des navires pétroliers dans le Golfe, dans le détroit d'Ormuz, juste en dehors du détroit d'Ormuz, détroit par lequel passe chaque jour environ le 1/5 de la consommation pétrolière mondiale. Quelles seraient les représailles de l'Iran sur Israël, qui entraîneraient des représailles israéliennes sur l'Iran, etc. On est sur plein de scénarios et personne n'a de boule de cristal pour prévoir ce qui va se passer. Mais les marchés, pour l'instant, retiennent leur souffle, comme le monde entier, en espérant que le pire ne sera pas sûr, mais le pire est possible au Moyen-Orient.
Mais alors, là aussi, il y aurait en conclusion une différence, c'est qu'aujourd'hui, à la différence de 1973, la production mondiale de gaz, de pétrole ne se fait plus nécessairement dans les mêmes pays. Je pense par exemple aux États-Unis qui sont devenus aujourd'hui producteurs de gaz. Est-ce que ça changerait quelque chose en conclusion, Francis Perrin ?
Alors, vous avez raison de souligner cette évolution historique majeure. Grâce à leur pétrole de schiste et à leur gaz de schiste, produit aux États-Unis, ce pays est aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie et l'Arabie Saoudite, et le premier producteur mondial de gaz devant la Russie. Ça, c'est un changement historique. Au moment du premier choc pétrolier, 73-74, il n'y avait pas, et il y avait du pétrole et du gaz de schiste, mais il était dans le sous-sol, il n'était pas exploité parce qu'on n'avait pas les technologies pour le faire. Donc ça, c'est un changement effectivement majeur. Le Canada, toujours pour rester en Amérique du Nord, est un grand producteur de pétrole, le quatrième producteur mondial de pétrole. Donc, il y a eu des modifications importantes. Cela dit, malgré toutes ces modifications, le Moyen-Orient continue quand même à concentrer à peu près 50% des réserves prouvées mondiales de pétrole et à peu près 40% des réserves prouvées mondiales de gaz. Ce qui se passe au Moyen-Orient, si cela a un impact négatif sur les flux pétroliers et gaziers, aura forcément un impact important sur le pétrole et le gaz.
Et donc sur le marché mondial. Merci beaucoup Francis Perrin. Dans quelques secondes, Alexandra Delbo avec Science, on va parler des allergies.